Je vais introduire donc la dernière communication de la matinée, celle de Florian Besson, donc un historien normalien et agrégé d'histoire. Il a soutenu sa thèse à l'université Paris-Sorbonne sous la direction d'Elisabeth Crouzet-Pavant sur la féodalité dans les États latins d'Orient, en s'intéressant principalement aux pratiques du pouvoir et à la culture politique de la noblesse. Et il travaille également sur les réécritures du Moyen-Âge dans la littérature contemporaine, c'est un des très bons connaisseurs de fantasy aujourd'hui, et puis aussi d'Uchronie. Donc il a co-dirigé « Écrire l'histoire avec des si » aux presses de la rue d'Ulm sur l'Uchronie, et puis plus récemment avec Justine Breton, « Camelot, un livre d'histoire » paru chez Vendémiaire.
Merci beaucoup.
Ah oui, il faut que vous...
Il faut que je change.
D'accord.
L'enregistrement.
L'enregistrement, je ne sais pas, je peux te filer ça.
Oui.
C'est pour le... T'as un PowerPoint ?
Non, non.
D'accord.
Non,
ah bah non, alors voilà, ne bouge pas.
C'est peut-être plus simple.
Voilà.
Non, je crois que c'était une question de
temps. Non, non, pas du tout. Alors d'abord merci aux organisateurs du colloque d'avoir retenu ma proposition et de m'avoir placé à cette place stratégique entre toutes qui est celle de la dernière communication avant la pause du midi, m'assurant ainsi de la moitié de votre attention, puisqu'on a tous hâte de manger. Une grande partie des cycles de fantasy se déroule dans une ambiance médiévale ou médiévaliste, les auteurs déployant diverses stratégies formelles et narratives pour usurper la médiévité, selon la belle formule d'Anne Besson. En tant qu'historien médiéviste, c'est vers ces cycles que je suis le plus attiré, et c'est de ces cycles que je traiterai surtout aujourd'hui. Donc quand on fréquente ces cycles de fantasy médiévaliste, on remarque que la plupart des auteurs situent leurs intrigues dans une ambiance atemporelle, comme si le temps s'était arrêté ou à tout le moins considérablement ralenti. L'échelle temporelle est le plus souvent celle des siècles, voire des millénaires. Dès lors, les structures sociales, économiques et politiques sont caractérisées par une permanence impressionnante et, à vrai dire, pour l'historien, fort peu crédible. Dans l'univers des chroniques de Crondor, par exemple, l'Assemblée des magiciens de Kelewan existe depuis 9000 ans, avec la même terminologie, le même emplacement. Dans Game of Thrones, les Stark de Winterfell règnent sur le Nord depuis 3000 ans. Or, quelle famille noble, dans notre histoire à nous, peut réellement se vanter d'une telle continuité à la fois onomastique, dynastique et politique? Le rythme de la fantaisie bat ainsi sur un tempo beaucoup plus lent que le rythme de notre histoire à nous, ce que manifestent bien les longévités souvent prodigieuses des personnages, capables de franchir les siècles, voire les millénaires, sans prendre une ride. Ce qu'on retrouve, même dans de la fantaisie très historique, ainsi du premier tome du Bâtard de Cosigan, de Fabien Cerutti, dont l'intrigue se passe en 1339, et où on croise Guillaume le Maréchal fort bien portant, alors qu'il est en réalité mort en 1219. Si l'historien est bien, comme le définit Joseph Morcel, celui qui étudie le changement social, et non pas seulement les événements, définis par Georges Duby comme une simple écume à la surface de l'histoire, force est dès lors de reconnaître que ces cycles, ces mondes de la fantaisie, sont pour la plupart anhistoriques. L'histoire n'y prend que la forme d'affrontements politiques, de crises dynastiques, sans que les structures sous-jacentes ne soient réellement affectées. Si on prend l'exemple de ce gros livre intitulé « The Untold History of Westeros », écrit par Martin et par un couple de fans, on voit bien qu'en fait, l'histoire de Westeros telle que l'entend Martin n'est qu'une histoire strictement politique et géopolitique, des coups d'État, des crises dynastiques, des invasions, mais il n'y a rien d'économique, il n'y a rien de social, il n'y a rien de culturel derrière cette « Untold History ». Non seulement ces mondes fantastiques sont médiévaux, mais ils sont en quelque sorte bloqués dans le Moyen-Âge. On y croise depuis des siècles, voire des millénaires, des rois, des chevaliers, des châteaux, une population rurale, un niveau technologique assez faible, etc. Mis à part les alternances politiques, la physionomie globale de la société reste inchangée, et ce sur le très long terme. Dans l'univers de Westeros, le dernier bouleversement social majeur, à savoir l'introduction de la religion des sept, date de 6000 ans avant l'histoire proprement dite des premiers tomes. Alors évidemment, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a 6000 ans, notre société était radicalement différente de ce qu'elle est. Si on pouvait remonter le temps et être ici il y a 6000 ans, rien ne ressemblerait à notre société contemporaine. Mais même pour un homme de l'an 1000, pour un Romain de l'an 0 ou pour un Gaulois de l'an moins 1000, s'il avait pu remonter le temps de 6000 ans en arrière, il serait tombé dans une société qui n'avait rien à voir avec la sienne. Les mondes de la fantaisie apparaissent alors comme ces univers féeriques qu'on a évoqués ce matin, dans lesquels le temps coule à un autre rythme et dont on revient pour s'apercevoir avec stupeur qu'un siècle a passé dans le monde réel. Un certain nombre d'œuvres ont d'ailleurs bien conscience de cette dimension et savent en jouer. Dans le livre 6 de Camelot, Merlin peut ainsi expliquer au jeune Arthuros qu'en Bretagne, ils ont encore des dragons, des serpents géants et de la magie, comme si l'île fantastique de Bretagne était restée à part de l'évolution globale du monde. Cette lenteur de ce qu'on pourrait appeler, en reprenant le concept de François Hartog, le régime d'historicité propre à la fantaisie médiévaliste, est d'autant plus étrange que beaucoup de cycles cherchent à se donner une épaisseur historique pour mieux renforcer l'effet de réel. De nombreux romans, comme par exemple La Belgariade, s'ouvrent sur des citations d'annales ou de chroniques censées raconter le passé du monde dans lequel va se dérouler l'intrigue. Le monde a donc une histoire, mais encore une fois, cette histoire n'est pas historique, puisqu'elle ne prend que la forme de conflits militaro-politiques, en sont absents les changements sociaux, les inventions technologiques, les mutations culturelles, les transformations démographiques, autant de mécanismes qui sont le véritable objet d'étude de l'historien. La très lente ronde des saisons de Game of Thrones est à cet égard emblématique de ce rapport ralenti à l'histoire et au temps. Encore plus explicite est la figure de la roue du temps qui donne son titre et son unité au grand cycle de Robert Jordan. Comme le rappellent les prologues des 13 tomes, je cite, « il n'y a ni début ni fin sur la roue du temps ». Un des grands classiques du genre ne s'intitule-t-il pas d'ailleurs « l'histoire sans fin ». Plus généralement, on remarquera qu'un grand nombre de cycles sont caractérisés par l'absence de calendrier. Il n'y a pas de découpe du temps, ni à l'échelle de l'année, ni à l'échelle de la semaine, ni à l'échelle de la journée. Il n'y a pas de vocabulaire pour dire les heures, pour dire les jours, pour dire les mois, pour dire les années. L'absence de toute chronographie, pour reprendre là aussi un terme utilisé par François Hartog, est le symbole d'une absence de réflexion sur le temps en général et sur la façon dont l'homme toujours s'y inscrit en le modifiant. Alors cette lenteur de l'histoire interpelle l'historien que je suis, et c'est sur ça que je vais essayer de réfléchir aujourd'hui, en réfléchissant spécifiquement à la façon dont on passe d'une époque à une autre dans la fantaisie, et encore plus spécifiquement à la façon dont on passe d'une époque étiquetée comme médiévale à une époque identifiée comme moderne. La question est donc simple, comment se fait l'évolution historique dans les mondes de la fantaisie? Alors lorsqu'il y a évolution, elle ne semble pouvoir prendre que deux formes. Tout d'abord la forme du retour. Les anciens dieux maléfiques refont surface pour menacer le monde, les objets perdus depuis des siècles sont retrouvés, les prophéties multiséculaires se réalisent. Alors on pourrait accumuler les exemples à l'infini, tellement ils sont topiques, je pense que vous avez tous des exemples en tête. Par exemple, les premiers tomes de la Belgariade, de la Compagnie Noire ou des Raven commencent tous avec le réveil d'une puissance maléfique endormie depuis des siècles qui reprend avec plus ou moins de succès le pouvoir. Le legs de Tolkien est évidemment déterminant, le Seigneur des Anneaux s'ouvre avec la redécouverte d'un objet maléfique disparu depuis plusieurs siècles et s'achève avec le retour du roi sur son trône, attendu là aussi depuis plusieurs siècles. On retrouve ça dans The Wheel of Time, où tous les événements sont pensés comme la redite, la répétition d'événements survenus dans le passé et d'événements qui sont à survenir dans le futur. Ainsi du retour du dragon, un événement bouleversant donc, qui entraîne l'intégralité de l'histoire, qui n'est en fait qu'une répétition à la fois du passé et du futur. Il y a eu un dragon auparavant, il y en aura un dans le futur, et ainsi de suite, sur une roue sans fin. Cette tendance de la fantaisie à replier le nouveau sur l'ancien est également bien marquée dans A Song of Ice and Fire. En commentant ainsi l'organisation du Kingsmoot qui doit choisir le nouveau roi des îles de fer, Asha Greyjoy déclare ainsi, je cite, « This is something new, or rather something very old ». L'invention politique, Something New, est ainsi annulée, puisqu'entièrement repliée sur le retour d'une ancienne pratique, Something Very Old, ancienne pratique tombée en désuétude. C'est la même chose pour la très belle fin du premier tome, qui s'achève sur cette phrase, je m'excuse pour mon épouvantable accent anglais, mais on est quand même français, on a une réputation à défendre, je cite, « And for the first time in 100 years, the night came alive with the music of dragons ». On retrouve le même rapport au temps qu'au sujet du Kingsmoot, le retour des dragons est un bouleversement majeur, un first time susceptible de faire basculer l'équilibre politique et géopolitique du monde, mais en même temps, ce n'est qu'un retour, une réapparition. Le monde n'avance pas vers du neuf, il revient vers un ancien qu'on avait cru disparu. Évidemment, ce rythme historique, qu'on pourrait définir comme une marche à reculons, n'est pas sans faire penser à la façon dont les médiévaux eux-mêmes pensaient leur histoire. Le Moyen-Âge, en effet, c'est bien connu, valorise la tradition plus que l'innovation, et les nouvelles pratiques sont dès lors souvent présentées comme des anciennes pratiques, ne serait-ce que pour mieux être légitimé. Ainsi, pour passer très vite, des diverses expérimentations politiques qui accompagnent la naissance des communes dans les cités-états italiennes au XIIe siècle, qui sont très souvent présentées comme des pratiques venues de l'antiquité gréco-romaine, même, voire surtout, quand il s'agit d'inventions politiques. Sur un autre plan, on pourrait également rappeler que lorsque Chrétien de Troyes commence à raconter l'histoire de Cligès, donc il est en train d'inventer une nouvelle forme littéraire à laquelle on donnera bientôt le nom de roman, il dit qu'il ne fait que traduire un récit trouvé dans l'armoire d'une abbaye de Beauvais. Le Moyen-Âge semble donc, comme ses transpositions fantastiques contemporaines, être surtout tourné vers le passé, ou plutôt, ne pouvoir penser l'évolution historique que sous l'aune du retour du passé. Deuxième forme que peut prendre l'évolution historique, celle du déclin. C'est là encore largement dû à Tolkien. Le Seigneur des Anneaux est marqué par une nette vision décliniste, symbolisée par le départ progressif des elfes de la Terre du Milieu. Le cycle s'achève d'ailleurs non pas avec la destruction de l'anneau unique, ni même avec le couronnement d'Aragorn, mais avec le départ des porteurs des anneaux quittant à jamais la Terre du Milieu. On retrouve cette vision dans de nombreuses œuvres, bien souvent marquée par une fin très lente mais inéluctable du merveilleux. La magie déserte le monde de Termer, les dragons volent pour la dernière fois dans le cycle d'Elric. Dans un très grand nombre d'œuvres, les personnages ont bien conscience d'être moins que leurs ancêtres, notamment en termes de savoir ou de pouvoir magique. Au hasard de mes lectures du moment, ce bref passage du premier tome du Bâtard de Kosigan, je cite « De nos jours, cependant, la magie est de plus en plus difficile à pratiquer, et beaucoup des prouesses du passé sont d'ores et déjà impossibles à reproduire aujourd'hui. » Fin de citation. Les héros évoluent alors dans un monde empli de ruines, des réalisations glorieuses laissées par les siècles précédents, mais qui sont à présent irréalisables. C'est le cas dans Game of Thrones, avec les routes ou les épées valyriennes, ou dans The Wheel of Time, avec les mystérieux Angréal, dont le fonctionnement reste largement inconnu. À nouveau, ce régime d'historicité peut faire penser à la façon dont les médiévaux pensaient l'histoire. Influencé par la vision cyclique et descendante des Grecs et des Romains, selon laquelle l'histoire passait, vous savez, d'un âge d'or à un âge de fer, les médiévaux formulent en effet une vision profondément décliniste, selon laquelle le temps amène le monde vers sa fin. La fin des temps n'est donc pas forcément un sommet de l'histoire humaine, mais au contraire, le point extrême de son épuisement, c'est le motif du Mundus Senescit, le monde qui vieillit. Pour prendre un exemple précis, la chronique de la première croisade de Guibert de Nogent, rédigée vers 1120, souligne que la première croisade est un événement extraordinaire, d'autant plus incroyable que, je cite, « le monde s'affaiblit de génération en génération et nous sommes, nous, bien moins que ce qu'étaient les Romains ». Ce sentiment d'infériorité par rapport au passé est résumé dans le célèbre proverbe médiéval « nous sommes des nains sur les épaules des géants ». On retrouve bien cette dynamique dans la fantasy. Dans le cycle de Corum, par exemple, Corum est invoqué dans un lointain futur par ses descendants, qui le prennent pour un dieu, tellement ils ont entre-temps perdu en force, en savoir, en taille et en beauté. On a ainsi, vous voyez, deux rythmes historiques, une histoire qui se pense comme la redécouverte ou la répétition d'une histoire passée, et une histoire qui se pense comme un lent déclin par rapport à une gloire perdue. Évidemment, impossible de réduire l'histoire à ça. Les médiévaux, d'ailleurs, ne le faisaient pas. L'idée de progrès émerge au Moyen-Âge, dans les milieux universitaires du XIIe siècle, témoin du dynamisme démographique, commercial et intellectuel d'un Occident en plein essor. La métaphore des nains et des géants est à cet égard formidablement ambivalente, comme l'a bien montré Jacques Verger, car si elle traduit bien la conscience d'une infériorité par rapport au passé, elle n'emporte pas moins la promesse d'un dépassement par rapport à ce même passé. Certes, nous sommes des nains par rapport à ces géants qu'étaient les Romains, mais précisément par notre capacité à monter sur les épaules de ces géants, nous voyons plus loin qu'eux. Très tôt, les médiévaux ont eu conscience de vivre dans une époque marquée par de nombreuses évolutions et bouleversements. Et ce, à toutes les époques, à tous les siècles qui composent ce grand millefeuille que l'historien contemporain appelle le Moyen-Âge. L'Europe de l'an 1000, par exemple, chez Raoul Glaber, atteint un nouveau printemps. La France de 1100 est marquée, comme le résume en grognant l'amer Guibert de Nogent, je cite, « par des nouveaux mots, des nouveaux noms, des nouvelles idées qui se répandent partout ». Un siècle plus tard, c'est Rutebeuf qui rime, je cite, sur ce monde changeant qui change plus souvent qu'un denier au change. Encore un siècle plus tard, c'est l'auteur du Jouvencel qui note, je cite, « de jour en jour et de plus en plus croissent les engins des hommes et se renouvellent les manières de faire ». Bref, pour tourner vers le passé qu'ils aient pu être, les médiévaux n'en ont pas moins eu conscience de vivre dans des époques qui ne cessaient d'inventer et d'innover. Or, cette réalité est fort peu connue du grand public, et le rythme lent de la fantaisie recoupe et prolonge l'image d'un Moyen-Âge immobile, pensé comme une période figée entre la vigueur de l'Antiquité et le bouillonnement des temps modernes. Dès lors, la fantaisie contribue évidemment puissamment à entretenir cette image dans les imaginaires collectifs, et on en parlait ce matin de l'importance de la réception dans la fabrication de ces imaginaires collectifs sur le long terme. Il est permis de penser que les médiévistes, malgré tous leurs efforts, auront bien du mal à imposer l'image d'un Moyen-Âge neuf, pour reprendre le titre de l'exposition de la Cité des sciences et de l'industrie de l'an dernier, tant que les grands succès de la fantaisie en feront une période figée dans le temps et caractérisée précisément par l'immobilité des structures sociales, économiques et politiques. Cependant, contre l'immobilité de la plupart des cycles, plusieurs œuvres cherchent au contraire à mettre en place des évolutions chronologiques internes, plutôt articulées autour de la notion de progrès. Ainsi, dans The Wheel of Time, Randall Thor, le personnage principal, fonde des laboratoires de recherche pour laisser une trace à la postérité. L'un des savants qui y est employé invente une étrange machine dont la première présentation laisse le héros sceptique car elle ne sert qu'à faire de la fumée et du bruit. Quelques tomes plus loin, le héros croise avec stupeur des chariots sans chevaux utilisant une étrange énergie pour tirer de très lourdes charges. Bref, on vient d'inventer la machine à vapeur, aussitôt utilisée pour mettre en place des formes de machines. Ce qui frappe d'abord est la rapidité de cette invention, qui ne prend que quelques mois dans l'intrigue pour passer du prototype expérimental au train ou au paquebot. Rappelons historiquement qu'il a fallu un siècle et demi pour passer de la pompe à feu de David Ramsay, commercialisée en 1630, à au moteur à vapeur de James Watt, breveté en 1769. Au contraire, ici, tout est condensé en l'espace de quelques mois, voire de quelques semaines. L'apparition de machines à vapeur dans un univers largement médiéval est d'autant plus intéressante qu'elle accompagne une autre invention largement parallèle. En effet, l'un des personnages principaux du cycle, Matrim Coton, en vient à inventer des armes à feu, fruit d'une longue fascination pour les feux d'artifice, fascination qui est introduite subtilement dès les premières pages du tout premier tome, et ensuite on attend pendant 10 tomes de voir comment est-ce qu'elle va se concrétiser. Ces canons, qui ressemblent à de grosses bombardes médiévales, jouent un rôle déterminant lors de l'ultime bataille qui clôt le cycle. Comme pour les machines à vapeur, l'auteur condense en quelques mois des évolutions techniques qui ont pris plusieurs siècles. Les premières armes à feu, apparues en Occident au début du XIVe siècle, n'avaient qu'un impact extrêmement minime. Il a fallu attendre plusieurs décennies pour qu'elles deviennent véritablement utilisables, et plusieurs siècles pour qu'elles révolutionnent véritablement l'art militaire. Robert Jordan, l'auteur du cycle, va plus loin. À la faveur d'un flash-forward obtenu par un personnage grâce à une machine magique, il nous permet de voir ce que son monde va devenir. On s'aperçoit alors que ces deux technologies, la machine à vapeur et les armes à feu, vont se diffuser rapidement, et le monde va se mécaniser en profitant de la paix rétablie à la fin du cycle. En l'espace de deux générations, on croise un peu partout des chemins de fer et des fusils, et même déjà des avions qui prennent fièrement leur envol. On passe donc du Moyen-Âge au XIXe siècle, voire au XXe siècle, en un demi-siècle. On a donc envoyé un joli paradoxe, dans la fantaisie l'histoire va beaucoup plus lentement que dans notre monde à nous, mais quand elle avance, elle va beaucoup plus vite. C'est également une invention technologique qui est porteuse du changement dans le cycle des Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Au tout début du premier roman, les scientifiques de l'Empereur viennent tout juste d'inventer les boîtes de conserve. Invention très modeste apparemment, mais qui a quand même un impact non négligeable sur l'histoire, puisque cette nouvelle façon de conserver les aliments permet aux villes de mieux se défendre en cas de siège, et force du coup les personnages à trouver des solutions pour prendre les villes, puisqu'il est impossible désormais de les réduire à la famine. C'est une vision assez juste historiquement, puisque la boîte de conserve a été développée pour les besoins de la marine et de l'armée, avant de devenir un produit de consommation courant. Sur le mode parodique qui le caractérise, Terry Pratchett livre également une réflexion assez fine sur l'invention de l'imprimerie, faite par le nain Bonnemont dans le tome 26 des Annales du Disque Monde, intitulé « La vérité ». Les nombreux enjeux économiques que brasse la nouvelle invention, l'apparition rapide de la concurrence, ou encore l'opposition de la guilde des graveurs, sont des éléments réels qui ont accompagné l'apparition et la diffusion de l'imprimerie en Europe, tandis que la présence dans le roman du patricien Vetterini peut renvoyer à Venise, laboratoire de l'imprimerie médiévale. Alors, le cycle des Fils des Brumes que je viens de mentionner mérite une mention à part. L'auteur y met en effet en scène un empire, l'Empire Ultime, dirigé depuis des siècles par un dictateur immortel au nom sympathique qui s'appelle le Seigneur Maître. La longévité du tyran permet en réalité d'expliquer l'immobilité politique, technologique et sociale. Le Seigneur Maître est présenté comme un ultra-conservateur qui déteste les changements et cherche à figer le monde dans l'état où il était quand il est devenu empereur. Son renversement permet ainsi de débloquer l'histoire, qui se précipite alors comme un torrent dont on aurait trop longtemps retenu les flots. Quelques générations après sa chute, la suite du cycle, le nouveau cycle dans le même univers, prend place dans une ambiance steampunk Far West. Il en va de même dans le monde fantastique de Gore, inventé par John Norman. L'histoire y est figée depuis des millénaires, dans un mélange entre l'Antiquité grecque et le Moyen-Âge féodal, car les tout-puissants prêtres-rois suppriment immédiatement tous les inventeurs et toutes les inventions. Le héros et narrateur, Tarl Cabot, venu de la Terre, insiste par exemple à la punition d'un homme qui met en place une espèce de proto-fusil et qui est immédiatement foudroyé par le ciel, par les prêtres-rois. Dans ces deux cas, vous voyez, l'évolution historique n'est pas tant absente qu'empêchée. Or, cette vision est extrêmement intéressante. Elle nous dit en effet, cela revient à affirmer que cette évolution est inévitable. Seuls les efforts conséquents déployés par le Seigneur Maître ou les prêtres-rois peuvent empêcher des découvertes. On n'est pas loin, dès lors, d'une vision assez téléologique qui pense l'évolution historique comme un processus inéluctable et monodirectionnel, comme si les armes à feu, les machines à vapeur, l'imprimerie devaient forcément finir par être découvertes, entraînant l'avènement de temps moderne marqué par la raison et non plus par la magie. C'est particulièrement clair pour l'évolution politique. Prenons l'exemple de la trilogie de l'Empire, co-rédigée par Jenny Wurtz et Raymond Feist, qui se passe dans l'univers des chroniques de Condor, et qui se centre sur les adversaires des gentils au début, donc l'Empire de Turani. Arrivée au sommet du pouvoir, l'héroïne du cycle, Mara, décide de lancer une série de réformes politiques majeures, bouleversant radicalement sa société, en supprimant notamment l'esclavage et les privilèges des nobles et des magiciens. Or, ce programme politique lui a été dicté par Kevin, son ancien amant, esclave venu du monde de Condor, qui lui explique notamment les mérites de la Charte de la Grande Liberté, transposition à peine masquée de la Magna Carta, qui fixe l'obligation pour tout le monde de répondre à la même loi. Les ambitions politiques de Mara recoupent alors le vieux débat philosophique qui se plaisait à opposer le despotisme oriental à la démocratie occidentale. Mara entend visiblement passer de l'un à l'autre, une évolution qui est non seulement présentée par les auteurs comme absolument bonne sur le plan moral, mais surtout comme parfaitement juste sur le plan historique. Mara est celle qui remet l'Empire en marche, secouant la sclérose dans laquelle il s'enfonçait depuis des siècles. On voit bien évidemment que cette vision historico-politique sert en réalité à mettre en valeur le modèle politique des démocraties occidentales contemporaines. Dans un schéma qui n'est pas sans rappeler celui de Karl Marx, on est censé passer du temps de l'Empire au temps des royaumes, puis des monarchies parlementaires, puis des démocraties. On peut même se demander si cette vision historique ne se teinte pas en arrière-plan d'un discret racisme culturel. En l'occurrence, le modèle politique de l'Empire de Turani, donc un modèle calqué sur le Japon féodal, est remplacé par un modèle politique apporté par des Kevin, des Thomas et des Georges, nouveau modèle qui est présenté comme à la fois moralement supérieur et historiquement juste, inscrit dans le seul sens de l'évolution de l'espèce humaine. On retrouverait la même évolution dans The Sword of Truth, de Terry Goodkind, l'épée de vérité, l'ancien monde, significativement appelé comme ça, The Old World, et la proie d'une dictature totalitaire, qui en vérité est une caricature assez grossière du communisme, tandis que le héros, significativement baptisé d'un prénom occidental, Richard, défend les droits de l'homme revus à la sauce américaine. La fantaisie se teinte ici, plus ou moins subtilement, de connotations idéologiques assez claires, qui visent à réaffirmer non seulement la supériorité du modèle politique occidental, mais surtout à en faire le seul modèle historiquement juste, vers lequel tous les autres modèles sont censés inéluctablement tendre. Alors, je conclue pour pas trop dépasser. J'ai essayé de souligner que le rythme et les mécanismes historiques qui gouvernent les mondes imaginaires inventés par la fantaisie sont généralement très lents, à la limite parfois de l'immobilité. Quand évolution il y a, elle prend souvent soit la forme d'une redécouverte des temps passés, soit la forme d'un déclin chargé d'une nostalgie en évoquant la perte des temps merveilleux d'hier. Au milieu de ces longs fleuves tranquilles, quelques remous, généralement évoqués au détour d'une sous-intrigue et qui, dans tous les cas, n'occupent que bien peu de place. Ainsi, dans The Wheel of Time, on passe 500 pages sur la très longue et pénible querelle de succession qui permet à Elaine de devenir finalement reine d'Andorre, alors que l'invention de la machine à vapeur est expédiée en 6 lignes, j'ai compté, alors que l'historien sait bien lequel de ces deux événements aura in fine le plus d'impact sur l'histoire du monde. Trois remarques en conclusion. Tout d'abord, cette hiérarchisation des mécanismes historiques, le primat donné à l'histoire politique et militaire au détriment de ces structures de fond que sont le social, le technologique, l'économique, est évidemment un impératif narratif. On est tous d'accord que c'est plus facile d'écrire une histoire sur la base de « un méchant peuple veut nous envahir » plutôt que sur la base de « les paysans bretons commencent à faire en moyenne 1,4 plus d'enfants que les paysans provençaux », ce qui permet à la noblesse bretonne de dégager plus de surplus. On voit bien que le potentiel dramatique n'est pas tout à fait le même. Néanmoins, ça reflète également la façon dont on enseigne l'histoire aujourd'hui. Comme le notait Georges Duby, l'histoire bataille a encore de beaux jours devant elle. La fantaisie apparaît donc comme l'un des terrains qui assure sa publicité et même sa longévité. À cet égard, il y a clairement un paradoxe. Mon expérience d'enseignement dans le supérieur permet de voir que les étudiants et étudiantes détestent cette forme d'histoire. Ils détestent quand on fait des cours sur les successions politiques, sur les batailles, parce qu'ils trouvent ça précisément difficile à apprendre, une série de dates, alors même qu'ils consomment largement la fantaisie qui repose quasi exclusivement sur ce régime d'historicité-là. Là, il y a un décalage qui est assez intéressant. Deuxième remarque, les évolutions, quand il y en a, prennent toujours la même forme. Armes à feu, machines, en particulier machines à vapeur et ou imprimerie. Les auteurs se montrent assez peu originaux, voire assez paresseux, et reprennent des éléments importants de notre histoire à nous qui ont compté dans l'évolution des sociétés occidentales. C'est particulièrement clair dans le film Bright, un film distribué par Netflix, réalisé par David Ayer en 2017, alors même que l'histoire se passe dans un univers fantastique où vivent des elfes, des orques et des dragons depuis plusieurs milliers d'années, l'histoire politique est exactement la même puisque les personnages évoquent George Washington ou Fort Alamo. On pourrait appeler ça des anti-uchronies, c'est-à-dire une incapacité à dérouler une véritable histoire alternative, alors qu'on comprend bien qu'évidemment dans un univers où vous rajoutez des centaures, des dragons et des orques, c'est extrêmement peu probable qu'à un moment il y ait un mec qui s'appelle George Washington qui ait eu exactement le même rôle. D'accord ? Ou sinon on voit bien que ça, du coup, le merveilleux en fait n'apporte rien. Dernière remarque, ces évolutions ne sont pas connotées de la même façon. Chez Terry Goodkind, dans The Sword of Truth, la victoire du régime politique de Richard Rahl sur l'ordre impérial de Jagang est célébrée avec un enthousiasme qui, en réalité, touche à la propagande. Au contraire, le roman de Pratchett est l'occasion de réfléchir sur le bien fondé de ses progrès. À la fin du livre, Guillaume Desmaux, le héros du tome, fondateur du premier journal, se rend compte avec désespoir qu'il a donné naissance à un monstre, l'information, hein, qui demande tellement de son énergie qu'en fait il est incapable d'avoir un rendez-vous galant avec la reporter qui drague depuis le début du roman, puisque ce sera toujours remis par la quête du scoop. Sur un mode beaucoup moins comique, on sait que Tolkien se sert d'Hortanque pour dénoncer une mécanisation du monde contre les valeurs simples des hobbits de la comté. Au point que, comme le rappelle William Blanc dans son ouvrage sur le roi Arthur, le Seigneur des Anneaux fut utilisé dans les années 70-80 par la contre-culture américaine et joua un rôle non négligeable dans la maturation des mouvements écologiques. La fantaisie apparaît alors non plus seulement comme un univers intouché par le progrès, mais bien comme une façon à part entière de refuser ce progrès. La lenteur des rythmes historiques n'est plus uniquement un signe de la paresse des auteurs, qui s'épargne ce faisant la nécessité d'avoir à inventer une vraie histoire avec des évolutions onomastiques, démographiques, sociologiques, culturelles, linguistiques, etc. C'est plus seulement donc un signe de la paresse des auteurs, mais un véritable choix aux connotations presque politiques. Sans forcément s'en rendre compte, les auteurs reprennent la vision de Max Weber. L'histoire prend la forme d'un lent désenchantement du monde, le progrès se payant au prix fort du renoncement au merveilleux et à la magie. Dans tous les cas, je conclue avec ça, ces rythmes historiques contribuent à entretenir le schéma, voire le mythe, d'une soudaine accélération de l'histoire à l'aube des temps modernes, venant soudain secouer la torpeur d'un Moyen-Âge endormi. Mythe qui est là aussi bien présent dans les imaginaires collectifs. À l'université, un de nos grands défis quand on enseigne l'histoire médiévale, c'est de faire comprendre aux étudiants et étudiantes qu'un siècle, c'est un siècle, qu'on soit au Moyen-Âge ou au XIXe siècle, que l'écart temporel est le même entre l'an 1000 et l'an 1100 qu'entre 1900 et 2000. Et c'est difficile parce que précisément, en fait, on a tendance à contracter et à voir le Moyen-Âge ou l'Antiquité, c'est la même chose, hein, comme une espèce de grosse période endormie dans laquelle l'histoire passait beaucoup plus lentement. C'est assez ironique, au fond, si on y réfléchit bien, car la fantaisie, si prompte à tirer du Moyen-Âge décors, personnages et intrigues, reprend en l'occurrence une vision qui a été forgée par les humanistes de la période moderne contre la période médiévale. Hein, c'est les humanistes qui ont inventé cette image d'un Moyen-Âge endormi, et du coup c'est assez ironique de voir des auteurs de fantaisie qui aiment sincèrement le Moyen-Âge reprendre en fait une vision qui a été forgée pour détruire cette période. Je vous remercie.
Yann, merci pour cette dernière communication de la matinée, suffisamment dynamique pour nous retenir totalement notre attention, et puis donc réouvrant donc la question des conceptions du passage du temps dans la fantaisie médiévale. Mais alors du coup, j'ai l'impression que tu fais une différence très nette entre la fantaisie et l'Uchronie, parce que donc les hypothèses uchroniques n'ont pas du tout été traitées dans communication, et alors qu'elles se présentent justement comme l'option possible pour tenter d'imaginer, si tant est que ce soit possible, parce que c'est aussi, je trouve un peu injuste quoi, comment est-ce qu'on peut imaginer une complètement une autre histoire ? Mais en tout cas, l'Uchronie, le temps, non ?
Ouais, alors effectivement, je n'ai pas parlé de l'Uchronie, c'était un choix de corpus, quoi, vraiment, pour restreindre le cycle. Effectivement, l'Uchronie, le principe même, c'est ça, c'est de dire, bon, ok, on va jouer le jeu, on va réécrire l'histoire. En fait, assez souvent, on retombe finalement sur une histoire qui est extrêmement proche de la nôtre. Et là aussi, ça reprend en fait la même vision téléologique. Hein. Je pense par exemple à ce roman de Silverberg qui s'appelle Roma Aeterna, qui part du principe que l'Empire romain n'a pas disparu et continue à traverser les siècles. Et en fait, à partir de là, avec une paresse qui est quand même assez désarmante, quoi, presque, et en fait, il déroule des événements de l'histoire occidentale, qui fait qu'en fait, au XVIIIe siècle, il va y avoir une révolution populaire où on va guillotiner l'empereur, porté par des bourgeois en perruque, et on déroule comme ça, en fait, exactement les mêmes événements, qui fait que, globalement, 1950 ans après la non-naissance du Christ, il y a quelqu'un qui invente une fusée qui permet d'aller dans l'espace, enfin, et ça déroule vraiment en fait notre histoire à nous, et encore plus que notre histoire à nous, ça déroule en fait l'histoire occidentale, je dirais même en fait l'histoire américaine seulement, quoi. Comme si c'était la seule histoire qui valait d'être racontée, le seul point de vue possible qui valait d'être imaginé, quoi. Donc finalement l'Uchronie elle est pas très différente, elle part d'une ambition mais elle retombe toujours sur cette vision téléologique comme s'il n'y avait qu'une seule histoire qui pouvait arriver. Bon, il y a certains sites qui sont beaucoup plus imaginatifs, on est d'accord, mais globalement c'est pas les plus fréquents.
Non. Le micro baladeur, le voilà, il est là.
Merci. Mais alors, est-ce que ce serait une forme de paresse ou est-ce que c'est une sécurité des auteurs qui se disent, bah, plutôt que de créer quelque chose de totalement nouveau où je vais perdre mes lecteurs, je leur mets des points de repère qui peuvent leur permettre de se rattacher à quelque chose de vaguement connu, de vaguement familier en tout cas. Et après, moi, je prends une histoire à partir de cette trame-là qui n'a pas d'incidence.
Mais sûrement, tout à fait. T'as tout à fait raison. Hein, dans un des premiers, justement, le premier livre d'Uchronie, celui de Renouvier au milieu du 19e siècle, qui est une magnifique lecture parce que c'est absolument incompréhensible, une des premières notes de bas de page dit « Mais on est d'accord que ce que je fais, c'est absurde, parce qu'à partir du moment où il y a un élément qui a divergé, tout diverge, et du coup, il ne pourra jamais y avoir dans mon vrai monde un personnage qui s'appelle Constantin, parce que c'est absurde de penser que quelqu'un a pu naître comme ça. » Mais il dit, mais je vais quand même le faire, parce que sinon, on ne pourrait pas raconter d'histoire alternative, puisque le principe même de raconter une histoire alternative annulerait le fait de le faire. Du coup, effectivement, il dit, donc on va partir du principe que dans le monde, il y a un Constantin, et il y aura un Clovis et un Attila, alors que c'est complètement absurde de penser qu'ils ont pu exister, vu qu'on fait dévier l'histoire. Donc effectivement, il y a une part, en fait, de on accepte une règle en sachant qu'elle est fondamentalement biaisée, parce que sinon, on ne peut pas le faire.
Par rapport à George Washington, qui est évoqué dans Wright, il y a aussi, je pense, alors qui n'est pas forcément admise mais qui est peut-être inconsciente, que même dans un monde où on a des orques et des centaures, les Américains sont tellement forts que de toute façon leur histoire n'aurait pas changé.
Oui, mais complètement. C'est pour ça que j'ai dit c'est téléologique. Ça revient en fait à légitimer sa propre histoire, à en faire la seule histoire qui aurait pu arriver. Mais dans Bright, c'est flagrant parce que c'est pas seulement George Washington. Il y a un Starbucks, il y a Pizza Hut, ils font une référence à Shrek, alors qu'effectivement, dans un monde avec des orques qui vivent dans le vrai monde, Shrek, ça devient quand même quelque chose d'assez curieux comme dessin animé. Enfin, voilà. Donc en fait, on sent bien ici soit une non-volonté, soit une incapacité des auteurs à penser une véritable histoire alternative. En se posant vraiment la question, en disant qu'est-ce que ça aurait pu être.
Enfin, pour Starbucks et Shrek, on est quand même dans le gros clin d'œil. Enfin, là, je crois qu'il ne faut pas en
pas que.
Plus. Mais c'est pas là-dessus que je voulais rebondir. C'est sur cette histoire de culture américaine, parce que là, je sors d'une période en immersion complète. Il ne faut quand même pas oublier une chose fondamentale. Le gros du public, c'est le public américain. Donc, je veux dire, tout simplement, ces gens-là écrivent et pensent en fonction de leur histoire et pour eux, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, alors c'est en train de changer, hein, mais fondamentalement, toute la période qui va des aventures des années 50, 60, 70, ça fonctionne à plein. Je veux dire, on peut leur reprocher bien des choses, il n'y a pas de raison de leur reprocher d'être américains, quoi. Je veux dire, bon, ils écrivent pour leur public, et leur public, même ça, point. Non, mais
voilà, Justine est désormais dépositaire du micro.
Je crois qu'il y a une question derrière.
Il y a une question derrière. Nicolas Le Breton.
Oui, donc, moi, je crois que je voulais rebondir sur le point Uchronie. J'ai un petit peu. Voilà. Je pense qu'il y a des tas d'Uchronies qui sont passionnantes à faire. Effectivement, il y a ce côté de ne pas perdre le lecteur. Il y a ça, il faut quand même donner des références. C'est vrai que normalement, à partir du moment où l'histoire change, à part sur une brève période, on ne devrait pas retrouver des de personnages historiques connus, hein, parce qu'après ça, tout se remélange, etc., toutes les cartes sont rebattues. Et justement, est-ce que c'est pas à partir de... C'est-à-dire qu'on peut faire une uchronie avec des références dans les 50 ou 100 ans qui vont être à partir du point de divergence, mais qu'au-delà, par exemple, si on fait une uchronie sur l'Empire romain, là, on est basculé dans un tout autre monde. Voilà,
oui, mais bien sûr. Raison pour laquelle, quand les uchronies elles sont faites par les historiens, généralement, ils évitent de tirer le fil trop loin. Effectivement, ils tirent les conséquences sur 30, 40, 50 ans, et puis ils s'arrêtent en disant, mais après, on ne peut même pas imaginer ce que donnerait un monde dans lequel Jésus a été gracié, on ne peut pas savoir ce que ça donne.
Oui, justement, on ne peut pas savoir. Je vais apporter le micro. C'est comme, enfin, l'idée de quelque chose d'entièrement nouveau, qui a été évoqué à plusieurs reprises. Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'entièrement... Enfin, c'est juste... Ça, c'est juste enfin, cognitivement pas possible, de la même façon que tous toutes les créatures surnaturelles sont construites avec des bouts de trucs existants. Donc, voilà, je trouve ça un petit peu difficile même de concevoir et donc de demander à des auteurs d'imaginer une évolution historique qui n'aurait pas de base. Alors, non seulement pour le lecteur, mais même pour eux-mêmes, sauf à être complètement schizophrène et à avoir écrit à vivre dans une réalité parallèle,
Bien sûr, je suis entièrement d'accord, mais ce qui est plus frappant, c'est du coup, c'est non seulement leur capacité à imaginer du neuf, c'est d'accord, mais c'est leur incapacité, par exemple, à imaginer un autre ordre des choses. L'incapacité à imaginer qu'il n'y a aucun monde dans lequel l'informatique aurait pu être découverte avant la machine à vapeur. Or, il y a très peu de lien entre les deux technologies. On pourrait imaginer un XVIIe siècle qui découvre ça avant. Et en fait, il y a très peu de sites qui font cet effort-là de changer la causalité, de changer l'ordre, de changer les choses, sans retomber à un moment ou un autre sur notre histoire. L'Uchronie, c'est assez flagrant. Dans les histoires alternatives, vous pouvez prendre à peu près toutes celles que vous voulez. Il y a un moment où l'Amérique est découverte par des gens qui viennent généralement de l'Ouest, amenant des grands bateaux qui découlent l'Amérique et qui entreprennent de massacrer les Indiens. Comme s'il fallait forcément que l'Amérique soit découverte. Et là, du coup, il me semble que là, il n'y a pas de difficulté mentale à inverser l'ordre des inventions, à inverser l'ordre des évolutions politiques.
Bah, elle est là en même temps.
Il y a une inversion de l'ordre des inventions.
Quelqu'un va s'en apercevoir.
Pourquoi ?
Bah, je sais pas, le courant.
Ben, pourquoi il n'y a pas de nécessité historique qui dit que l'Amérique doit être découverte? Il n'y a pas de loi de l'histoire qui dit qu'à un moment, quelqu'un doit découvrir l'Amérique?
Il y a une loi de l'humanité qui fait qu'on peut voyager.
Non, puis il y a des courants marins.
Terrible.
Pour moi. Non, mais sur le problème épistémologique des inventions...
Des vents? Tu sais, les alizés, là, ça te pousse.
Sur le problème épistémologique des inventions, il y a quand même un vrai problème. C'est qu'il y a un cas particulier... qui est le cas de l'aviation, où systématiquement, ils inventent des deltaplanes avant le Boeing. Or, c'est clairement pas possible, ça. Alors, il faut... c'est très con, mais il faut connaître ça, les lois de l'aérodynamique avant de commencer à faire des deltaplanes.
Je ne connaissais pas cet exemple.
Et Léonard de Vinci, j'aurais pas dit, moi.
Non, mais par exemple, il y a peu de cycles qui font l'effort de penser une histoire à rebours. Par exemple, l'âge de la déraison de Keynes, dans lequel il imagine un XVIIIe siècle qui revient largement en arrière avec Newton qui passe sur la voie alchimique plutôt que chimique. Il n'y a pas beaucoup de cycles qui font cet effort-là mental du début, alors qu'en fait on peut le faire pour toutes les époques, on peut le penser n'importe quand. Et clairement la fantaisie elle déroule plutôt cette évolution sur le terrain politique où ça marche très bien, où on passe des empires aux royaumes aux démocraties, alors qu'encore une fois historiquement il n'y a pas de loi qui dit qu'on passe de ça à ça. On peut passer des empires aux royaumes puis revenir à un empire, ou on peut rester dans un royaume, et nos démocraties c'est pas la forme ultime de l'histoire humaine. Et en fait du coup la fantaisie elle laisse penser ça. Quand on termine l'épée de vérité, on termine avec la victoire de Richard Rall, il a gagné, il a tout gagné, il crée un régime démocratique, c'est fini, l'histoire est terminée. Littéralement, c'est la fin de l'histoire qu'on annonçait en 91, mais c'est la fin de l'intrigue, on referme le livre et on a l'impression que cette démocratie...
Tu as parlé simultanément de refus du progrès. Et donc, tu vois, il y a à la fois une idéologie progressiste, néolibéral, et un refus du progrès.
C'est pas dans les mêmes cycles, je pense. Ça dépend des cycles, justement. C'est pas les mêmes auteurs.
Il y a quelque chose que j'aimerais peut-être réintroduire dans le débat, c'est la volonté, l'objectif de pourquoi on écrit de la fantaisie. C'est-à-dire que pour l'instant, on essaye de voir quel est le décalage avec le réel, etc. Mais est-ce que l'objectif de la fantaisie, ce n'est pas d'expliquer le monde, justement. Donc, il y a une histoire qu'on la connaît, et donc on commence pour la comprendre par cette histoire, c'est pas la question, mais l'équivalent de l'humaine a pour objectif, peut-être, bien sûr, d'expliquer justement ce qui n'est pas compris, ou ce qui est mal compris, ce qui est mal connu. Donc, en ce sens, est-ce que l'histoire de la fantaisie doit suivre l'histoire moderne, l'histoire du monde? Oui, peut-être, justement. Dans le sens où, si elle ne le fait pas, les objectifs d'écriture ne sont pas peut-être.
Je sais pas trop comment dire. Je suis pas sûr que ce soit le travail d'un auteur d'expliquer le monde. Je sais vraiment pas en fait. Je vois des gens qui disent oui, des gens qui froncent beaucoup les sourcils dans la salle, donc ça me laisse penser que l'hypothèse est fait pas l'unanimité, donc je sais pas. En fait, surtout, je suis pas sûr qu'en fait les auteurs s'en rendent compte. En fait, je suis pas sûr qu'ils se rendent compte à quel point leur vision de l'histoire est téléologique et déterministe, alors que l'histoire, elle est pas déterministe en fait. C'est une vision de moi. Bien sûr. Et on n'y arrive pas, bien sûr. Bien sûr. Absolument. On est bien d'accord. Plus de micro.
Oui, non. Bah, quand la
littérature de l'imaginaire, il n'y a pas tant d'imaginaire que ça, en fait. Voilà. Il reste un substrat très. Voilà, qui est ancré dans nos civilisations, dans nos cultures. Donc, voilà, on ne construit pas à partir de.
Oui, bah, mais c'est des choses qui m'ont toujours vraiment fasciné. C'est sûrement une déformation historique. C'est le décalage entre l'inventivité folle dont certains auteurs peuvent faire preuve quand on invente un nouveau système de magie. Avec vraiment des systèmes fabuleux de centaines de pages, des trucs complexes où on explique les contradictions, les mécanismes, et à côté de ça, leur inventivité degré zéro pour inventer des structures sociales. C'est des mondes dans lesquels il y a un couple avec une homme, un papa, une maman, des enfants, on est mariés, et on reste ensemble, alors qu'il y a des magies fabuleuses, quoi. Et donc clairement, en fait, je sais pas si c'est pas tant de merveilleux, c'est aussi les auteurs qui choisissent le domaine sur lequel concentrer leurs efforts, et ce qui les intéresse, et ce qu'ils ont envie d'inventer, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait un décalage... très frappant dans des grands cycles à ce niveau-là.
Merci pour la présentation. Alors, justement, et si, pour rebondir aussi un peu sur ce qui a été dit, est-ce que là, il ne faudrait pas peut-être faire parler un peu plus dans la sociologie de l'œuvre ? Donc, quel est le but des auteurs ? Pourquoi ils écrivent ? Qui sont leurs publics ? Et est-ce que toi, tu as vu par rapport à des gens où tu as pu étudier certaines idéologies ou idéologies politiques de certains auteurs, comment ils s'en servent, comment ils le font transparaître dans leurs œuvres pour faire passer des messages, parce qu'à mon avis, c'est aussi là qu'il faut chercher pour savoir pourquoi ça prend telle ou telle forme. Et en retour, je te pose la question, toi, quand tu dis que l'histoire n'est pas déterministe, est-ce que c'est pas ta propre vision de l'histoire, sachant que entre déterministe et libre-arbitre, tout le monde n'est pas d'accord ou pas encore d'accord, est-ce qu'on pourrait pas justement argumenter dans l'autre sens, parce que quand on dit, ah, mais ils auraient pu faire ça et ça et ça ici. Mais non, et quelqu'un qui a une vision plutôt déterministe va te dire, bah non, ça devait se passer comme ça, et il devait l'écrire comme ça. Est-ce que toi, tu as ce recul réflexif sur la manière dont tu lis, hein.
C'est deux très bonnes questions. La première, effectivement, évidemment, ça demande de travailler beaucoup aussi sur la personnalité des auteurs, sur les choix qu'ils font. Il y aurait, voilà, j'ai cité Terry Goodkin dans Signalant plusieurs fois que ça touchait vraiment à la propagande politique, le tome 6 de l'épée de vérité dans lequel Richard va dans l'ancien monde et où on voit les arcanes de l'ancien monde, il est dédié par l'auteur au service secret américain, et la dédicace dit au service secret américain qui depuis des siècles se battent pour l'ordre et la lumière dans un monde menacé par les forces du mal et des ténèbres. Donc là clairement en fait il y a une espèce de brouillage idéologique, on a l'impression que les services secrets américains sont des héros de fantasy dans un univers où ils se battent contre le seigneur des ténèbres qui va envahir. Et donc là clairement on voit bien le positionnement de Goodkind, qui est un positionnement politique et plus seulement artistique ou littéraire. Pour la deuxième question...
Là aussi, ce que tu pointes, c'est qu'il faut recontextualiser. Et quand tu dis dans la fantaisie, comme ça, si tu as déjà, après la deuxième guerre, c'est 70 ans, mais même avant, quels sont les contextes dans lesquels ces œuvres sont publiées ? Et ça aussi, c'est peut-être important de le resituer pour voir à quoi ça renvoie à chaque fois et peut-être donner des éléments qui aident à comprendre la construction de l'œuvre.
Je suis bien d'accord. Et la deuxième question, oui, bah, évidemment, je suis aussi inséré dans une vision historique, comme tous les auteurs et comme tous les historiens, où on tente, sinon de s'en abstraire, en tout cas de l'objectiver en disant, en précisant quelle est cette position. Alors, effectivement, c'est pas encore tranché, le courant déterministe ou quoi. Globalement, la façon dont on écrit l'histoire aujourd'hui, elle est très largement non déterministe. La plupart des historiens ou des philosophes de l'histoire sont très largement d'accord là-dessus, à quelques rubriques près, mais ça domine quand même une vision plutôt non déterministe, plutôt linéaire de l'histoire, qui n'est pas celle en fait qui est reprise dans, dans la culture populaire. Il y a un décalage assez net, mais comme il y a un décalage dans la façon dont on fait de l'histoire maintenant et sur les thèmes qui sont ceux de la fantasy, puisqu'il y a toujours un décalage. Donc en fait, ce sera plus intéressant de voir si dans 20 ou 30 ans on retrouve ça, ou si on va aller vers des histoires plus non linéaires ou pas. J'en suis pas convaincu.
Et quelles étaient les conceptions historiques peut-être dominantes à l'époque où les textes sont écrits, ou comme on le disait ce matin, qui sont les auteurs les historiens sur lesquels peuvent s'appuyer certains auteurs.
Oui, ça, on est d'accord. Ça, c'est un travail qui sera à faire à chaque fois, effectivement, de savoir qu'est-ce que les auteurs ont lu à tel moment, qu'est-ce qu'ils n'ont pas lu, mais on sait à quel point c'est compliqué entre ce que les auteurs disent, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'on en parlait ce matin, entre ce que les auteurs ne savent pas qu'ils ont lu ou ne savent pas qu'ils sont influencés par tel ou tel. On sait à quel point c'est difficile de faire ce travail de recontextualisation.
Je parle à des gens. Surtout de produire des synthèses, parce que toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre une étude de cas, et puis là, voilà, alors que voilà, là, en fait, non, on est plus en train d'essayer, et c'est... Alors, c'est souvent le cas en littérature, peut-être moins en histoire, mais effectivement, on travaille souvent, et alors moi la première, sur des très vastes corpus pour essayer d'en tirer des traits communs. Et donc, on était clairement dans ce type d'intervention. Mais bon, les monographies, allez-y. Hein. On travaille.